Europe 1, il est 8h.
Je n'ai peut-être pas apporté les bonnes réponses, mais c'est avec conviction qu'on l'a fait. C'est une épreuve.
Un second tour raté pour les marcheurs et leurs alliés. À l'exception du Havre, la majorité est bousculée, privée d'un enracinement local. Les Verts s'imposent dans une myriade de grandes villes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Situation encore incertaine à Marseille, où l'écologiste Michel Rubirola a réussi une percée.
La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville.
Mais où l'union de la gauche n'obtient qu'une majorité relative. Donner des gages aux électeurs écologistes, Emmanuel Macron peut le faire dès ce matin avec les 150 citoyens de la Convention Climat, mais certaines propositions, on va le voir, sont déjà écartées. Nous serons à Fessenheim après 43 ans de centrales électriques, place à 20 ans au moins de démantèlement et à une petite fête entre militants antinucléaires.
Nous allons faire un geste symbolique à l'emplacement précis où le nuage de Tchernobyl s'était arrêté en 1986.
Ils ne se seront pas arrêtés en 2020, les festivals de musique sur nage. On écoutera même un peu de Joystar.
Ce matin, l'homme qu'il fallait recevoir au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, Yannick Jadot, la tête d'affiche des Verts. Il répondra à vos questions ensuite en direct à partir de 8h30 sur le hashtag Europe 1. 9h moins le quart, vous le savez, Nicolas Canteloup et sa revue de presque. Il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
C'est l'histoire d'un mouvement politique qui avait remporté l'Élysée et la majorité absolue à l'Assemblée nationale un an après sa création. La suite des batailles électorales est moins glorieuse pour La République En Marche, incapable de s'imposer sous ses couleurs sur le terrain municipal.
Jean-Rémy Baudot, c'est un échec pour le parti présidentiel, à l'image d'Agnès Buzyn qui ne siégera même pas au Conseil de Paris.
Pas une grande ville pour La République En Marche, même à Bordeaux ou Strasbourg, où des alliances auraient pu permettre d'afficher une victoire, ce sont les écologistes qui gagnent. C'est du gâchis, soupire un conseiller. Pas une surprise, reconnaît une membre de cabinet qui l'affirme, c'est dur de s'implanter au local. La faute notamment à des investitures mal ficelées, à des divisions avec des listes dissidentes comme à Paris. La faute aussi à des alliances avec la droite qui ont brouillé le positionnement du mouvement. Le parti n'a que 3 ans, rappelle une ministre. Mais déjà, certains veulent que des leçons soient tirées de cet échec. Quand tu te prends une tôle, c'est bien de se remettre en question, explique un cadre du mouvement. À quelques jours d'un possible remaniement ministériel, la Macronie se prépare donc à une réorganisation de ses instances au parti et à l'Assemblée nationale.
Lui est institutionnellement le chef de la majorité. Et c'est lui qui sauve l'honneur avec sa victoire au Havre, une ville où il avait été élu en 2014 avec l'étiquette de la droite.
Édouard Philippe, dans 2 heures, à l'Élysée, en tête à tête avec Emmanuel Macron, va-t-il poser sur la table les résultats du sondage qu'Europe 1 vous dévoile ce matin avec La Tribune? Sondage IFOP, à quelle personnalité faites-vous confiance pour réinventer la France? 45% des sondés répondent Édouard Philippe devant Nicolas Hulot et Didier Raoult.
À Bordeaux, après 73 ans de droite, c'est la gauche qui l'emporte, emmené par l'écologiste Pierre Urmic.
Stéphane Place, on parle là pourtant de la ville de Jacques Chaban-Delmas et d'Alain Juppé.
De la tristesse, c'est tout. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les stratégies des uns et des autres. Il y a une vague verte en France, c'est ainsi. Et c'est la démocratie.
Avant même la proclamation officielle du résultat, Alain Juppé entérine la défaite de son héritier, le maire sortant LR, Nicolas Florian, battu par l'écologiste Pierre Urmic.
Fierté quand même d'avoir amené ici au pouvoir les forces qui sont autour de cette liste. Après une vie politique bordelaise plutôt monolithique ces 75 dernières années, cette victoire-là, nous l'assumerons sans arrogance. Ce programme, c'est de doter Bordeaux enfin de la transition écologique qu'elle mérite. De ne pas louper ce rendez-vous.
À pied, dans une cohue indescriptible, Pierre Urmic rejoint la cour de l'hôtel de ville. Nicolas Florian, lui, s'apprête à céder son fauteuil de maire.
Une nouvelle page va s'ouvrir pour Bordeaux. Je n'ai peut-être pas apporté les bonnes réponses, mais c'est avec conviction qu'on l'a fait. C'est une épreuve. Je voudrais remercier Alain Juppé de la confiance qui a été la sienne.
2 points d'écart et une bascule historique après un règne sans partage de la droite depuis plus de 70 ans. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
La ville et la métropole de Lyon, mais aussi Strasbourg, Bordeaux, Poitiers, Tours basculent chez les Verts. En tête aussi, en union de la gauche, Marseille.
Mais le mode de scrutin dans la ville aux 8 secteurs et aux 16 arrondissements ne garantit pas pour le moment à Michel Rubirola de s'installer à la mairie. Reportage de Nathalie Chevance.
Même si la victoire n'est que relative, les militants du printemps marseillais ont laissé exploser leur joie autour du Vieux-Port.
C'est là où on se rejoint tous pour fêter la victoire. On a gagné, quoi.
Et la victoire, elle se passe dans le cœur battant de Marseille.
Marseillais,
Le changement, il est là, il est arrivé après 25 ans.
Des années de Gaudin, on pensait que ça allait jamais pouvoir s'arrêter et pourtant là, enfin, il y a un souffle.
Le système Gaudin est à terre.
Avec une gauche, des écolos aux insoumis rassemblés derrière Michel Rubirola, 63 ans, militante écologiste, novice en politique, qui adresse son premier message.
La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville.
Sauf que le printemps marseillais devra nouer des alliances pour diriger la ville, mais les militants veulent croire à une nouvelle façon de faire de la politique.
Ouais, on verra bien. Après, c'est aussi, on va apprendre en marchant aussi. Je veux dire, tout n'est pas acquis. Et le plus important, c'est de changer les choses. On était en maltraitance depuis 25 ans. Le changement, des nouvelles têtes et des gens de la société civile, pas des professionnels de la politique.
Mais les tractations avec certains adversaires seront incontournables d'ici le troisième tour, l'élection du maire par le nouveau conseil municipal. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Pour 227 voix seulement, Martine Aubry sauve sa place à Lille. C'est bien plus confortable pour Anne Hidalgo qui obtient plus de 50% des voix à Paris. On notera aussi la réélection du Républicain Jean-Luc Moudenc à Toulouse et la victoire du RN Louis Alliot à Perpignan. Tout ça dans un scrutin qui, au niveau national, n'a mobilisé que 4 électeurs sur 10.
Europe 1, il est 8h06.
Cette vague verte dont on parle depuis hier soir peut-elle peser sur les arbitrages d'Emmanuel Macron qui reçoit en fin de matinée les 150 citoyens de la Convention Climat ?
Eh bien, certaines de leurs propositions seraient mal engagées. C'est ce qu'on apprend avec vos informations, Romain Hoquet.
S'il y a bien une proposition épineuse, c'est l'instauration des 110 km/h sur autoroute. Un souhait de la Convention citoyenne, un gain environnemental, mais un terrain miné pour le gouvernement qui n'a pas oublié le traumatisme des 80 km/h. Il y a 2 ans, la réduction de la vitesse sur les axes secondaires avait provoqué la colère des Gilets jaunes. Au ministère des Transports, Elisabeth Borne reconnaît que le sujet est sensible et l'exécutif ne compte pas risquer une nouvelle fois de se mettre à dos une partie de l'opinion publique. Un autre projet a du plomb dans l'aile, la création du crime d'écocide. Cette sanction pour atteinte à l'environnement est cette fois enterrée par la garde des Sceaux. Pour Nicole Belloubet, cette proposition n'est pas légale, car il est impossible de soumettre ce genre de mesure à un référendum, en clair de demander à la population de se prononcer sur des sanctions pénales. 2 idées fortes qui tombent. Quant aux autres propositions, Emmanuel Macron reste prudent. Le travail de la Convention est remarquable, a salué le président, avant de préciser qu'il n'y aurait pas de référendum sans consultation du Parlement.
Une vieille promesse de François Hollande, concrétisée ce soir. L'extinction à 23h30 du réacteur numéro 2 de Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française.
Décision incompréhensible pour le maire de Fessenheim, Claude Brindaire, tandis que les anti-nucléaires savourent Arthur M. Bachet.
Sa barbe a eu le temps de blanchir 50 ans de lutte contre la centrale. Aujourd'hui, le jour J et une énième manif franco-allemande, sourit André Hatz de l'association désormais bien nommée Stop Fessenheim.
Nous allons faire un geste symbolique juste au milieu du pont du Rhin, à l'emplacement précis où le nuage de Tchernobyl s'était arrêté en 1986. Puisque nous avons lutté depuis 50 ans, il est logique que le jour J, nous nous retrouvions ensemble.
La fermeture de la centrale, c'est dans les années qui viennent, 2000 emplois directs, indirects qui vont disparaître. Il faut urgemment désenclaver le territoire, dit le député de Fessenheim, Raphaël Schellenberger.
Aujourd'hui, pour aller à Fessenheim, vous quittez l'autoroute, vous traversez 4 villages. Et ensuite, si vous voulez aller de l'autre côté du Rhin, il n'y a qu'un petit pont sur lequel ne peuvent passer que des véhicules légers. Et encore, un sens à la fois, il y a un feu qui régule. Et ça, c'est le symptôme d'un territoire qui n'a pas les infrastructures de desserte qui permettent le développement d'une activité économique.
Le député qui demande un projet de territoire plus ambitieux que celui porté par le gouvernement. Fessenheim, Arthur Enbaché, Europe 1.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, l'élection présidentielle en Pologne entre un conservateur et un libéral.
Et puis les festivals de musique qui retrouvent des couleurs même si le format est souvent réduit.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
Il n'y avait pas que les municipales hier, on votait en Pologne pour la présidentielle.
Le chef de l'État sortant est contraint à un second tour face au maire de Varsovie, Vincent Hervouet.
Oui, la présidentielle en Pologne, c'est le contraire des municipales en France. Le premier tour a été reporté pour cause d'épidémie. La campagne a été acharnée, la participation massive. Il n'y a aucune mélancolie démocratique en Pologne. Au second tour, le choix sera clair comme la bipolarisation qui oppose l'Est et l'Ouest, les villes et les campagnes, le parti nationaliste Droit et Justice et la plateforme civique. 50 plus pour le sortant, Andrzej Duda, soutenu par les populistes, ou le changement avec le maire de Varsovie, le libéral pro-européen Rafał Trzaskowski.
Son slogan, c'est « On en a assez ».
Oui, ça pourrait être celui de la Commission européenne qui a engagé une quatrième procédure d'infraction contre les réformes judiciaires en Pologne. C'est vrai que les Polonais sont agaçants et pas seulement les magistrats tenus en laisse. Les plombiers, le clergé en soutane, les frontières fermées aux migrants, la Pologne qui vit ses 30 glorieuses, qui se veut la meilleure alliée de l'Amérique en Europe, meilleure que l'Allemagne. Et le président était le ravi de la crèche la semaine dernière dans le bureau ovale avec Donald Trump. Surtout, le pays a résisté magnifiquement au coronavirus. 35 millions d'habitants, 1400 morts, à comparer à ses voisins plus riches, comme la France. Le confinement ayant duré 10 jours seulement, la Pologne sera le pays européen qui encaissera le mieux le choc de la récession. Autrefois, la Pologne, c'était le pays qui n'existe pas. Aujourd'hui, c'est un pays qui existe presque trop.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures d'Europe 1.
À force de parler d'annulation, on n'y croyait plus, mais il y aura bien des festivals cet été.
Oui, Angèle Châtelier, à l'image de celui de Cabourg qui pensait ne pas pouvoir se tenir et qui va finalement résonner dès ce soir.
C'est du bien au moral de pouvoir faire un festival avec du vrai public. Je suis libéré, délivré.
David Garcia jubile, le directeur du festival de musique des Déferlantes, n'y croyait plus. Son festival a bien été annulé ce week-end à Argelès-sur-Mer, mais il aura lieu en version XS fin août. 4500 personnes par jour devant The Avenger ou Joey Star.
C'est pas très compliqué pour nous de le mettre en place. Pour le public, pour l'économie locale, les prestataires qui vont pouvoir retravailler à minima et garder espoir, pour nous c'est très important.
Le milieu du cinéma aussi reprend espoir. Le festival du film romantique de Cabourg devait avoir lieu mi-juin. Il n'a pas pu se tenir comme prévu, mais Suzelle Pietri, sa directrice, a tenu bon. Et ce soir, elle lancera sa 34e édition avec les mêmes règles sanitaires que pour n'importe quelle salle de cinéma.
On dit que je suis très têtue. Il n'était pas question, si on avait une possibilité de faire le festival, de ne pas le faire.
La culture revit. Au Francofolie de La Rochelle, on travaille à faire des concerts en jauge réduite. Idem pour Rock en Seine, près de Paris. Tandis qu'au festival du Mât des Escaravages, Vatier dans le Var, c'est acté. Trio, Suzanne ou Ayo joueront devant 1300 spectateurs au mois d'août.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h, il est 8h14, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Derrière la percée verte, l'arc vert-rouge. Mais l'union de gauche peut-elle résister au choc des ambitions et aux appétits qui s'aiguisent? De l'appétit, il en a pour 2022, invité l'eurodéputé Yannick Jadot.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h16, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Yannick Jadot.
Bonjour.
Quel projet politique a gagné hier?
Le projet de l'écologie qui signifie faire face au dérèglement climatique, combattre l'anéantissement du vivant, mais aussi et surtout dans cette période mettre plus de solidarité dans notre société, apaiser les tensions. On voit bien qu'il y a une crise démocratique profonde avec un tel niveau d'abstention. Et notre responsabilité dans les villes que nous avons conquises hier, ça va être aussi de renouer ce lien entre l'action publique et les citoyens, de dire que l'action publique peut être efficace, de dire que des élus peuvent tenir leur engagement. Et c'est aussi comme ça qu'on luttera contre la crise démocratique à laquelle nous sommes confrontés.
C'est donc le projet écologique qui a gagné, mais aussi le projet de l'union des gauches qui a raflé la mise hier?
Ce serait mal comprendre ce qui s'est passé dans le pays hier. Évidemment, c'est autour de l'écologie que les victoires se sont construites, dans des rassemblements avec d'autres forces politiques, et notamment des forces politiques de gauche.
La France insoumise, les socialistes.
Les socialistes, parfois la France insoumise.
Mmh. Mais vous l'assumez, mais la France insoumise aussi, quand, Yannick Jadot.
Oui, mais regardez, à Bordeaux, on a gagné. Contre tous les pronostics pour le second tour, en faisant un rassemblement à gauche, mais surtout un rassemblement de citoyens et un rassemblement sur les projets dans une ville difficile historiquement pour les écologistes, où la droite gagnait au premier tour quasiment depuis l'après-guerre, et ben c'est un autre projet qui a gagné. C'est un projet, je l'ai dit, qui fait le lien aussi avec l'emploi, qui fait le lien avec les inégalités de territoire, qui dynamise le tissu des entreprises.
Et si je vous entends bien,
ville.
En
et
fait,
c'est une bonne nouvelle.
Il faut que les forces de gauche se rangent derrière les Verts. C'est le
non,
projet.
Je ne construis pas. Je construis pas l'écologie par ces accords d'appareil.
Et c'est ce qui va venir très rapidement.
Ce que les maires qui ont gagné hier et tous ceux qui ont fait de très bons scores. Et je veux dire la fierté que j'ai d'avoir vu toutes ces militantes, ces militants, ces candidates, candidats et élus aujourd'hui mener une campagne extraordinaire. C'est que c'est sur le projet que ça s'est construit.
Mais ma
c'est
question, sur les réponses, est-ce qu'il est de gauche ce projet, Yannick Jadot ? Est-ce que l'écologie, locale, est-ce que l'écologie est de gauche ?
Il faut comprendre que en 2020, l'aspiration populaire, l'envie d'un monde différent, je l'ai dit, plus solidaire, avec d'autres pratiques politiques, des équipes renouvelées, et en prenant à bras le corps la question de l'environnement, ça recompose.
Mais est-ce
le
que
paysage
ma question,
politique.
Je la repose. Alors, moi, est-ce que l'écologie est de gauche ?
La gauche est en train de venir sur l'écologie, et j'en suis extrêmement content. Je me réjouis de voir de nombreuses figures de gauche, leurs électrices, leurs électeurs, se dire ce triptyque écologie, solidarité sociale et démocratie, ça doit être le cœur d'un nouveau projet politique. Mais ce projet-là, il y a une semaine, le JDD mettait un sondage pour dire 77% des Françaises et des Français veulent la transition écologique. Eh bien moi, je veux offrir un débouché politique à cette ambition-là, à cette aspiration-là.
Vous, c'est-à-dire, vous êtes le candidat naturel
non,
des
moi,
Verts
je
pour
veux
2022
Les écologistes ont cette perspective.
Avec leurs alliés, c'est ma question, Yannick Jadot. Pas tout seul, on l'a compris. Est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise et les socialistes sont les alliés naturels des écologistes ?
Mais toutes celles et tous
oui,
ceux...
Non,
mais c'est ça, c'est simple. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier, il n'a pas envie de rejoindre un grand rassemblement autour de l'écologie. C'est son choix et je le respecte. J'entends beaucoup de responsables socialistes dire au contraire que l'écologie est la reconstruction du socialisme et de ses valeurs. Eh bien, tant mieux. Quand Anne Hidalgo... Quand Johanna Roland, quand Natalia Perret, quand Michael Delafosse gagnent à Paris, à Nantes, à Rennes, à Montpellier, et ces personnes, ces maires bon, gagnent,
donc vous m'avez répondu,
gagnent
l'écologie
sur
et de
l'écologie.
Gauche.
Quand on
Yannick
rassemble...
Jadot, on a compris avec Anne Hidalgo et les personnalités que vous citez, c'est aussi un ADN de gauche qui s'est affirmé hier et ce
oui,
n'est pas tabou.
Absolument.
Bon,
absolument.
Comment le président à présent, c'est important, Emmanuel Macron, doit tenir compte de cette percée verte selon vous ?
Ce que je ne voudrais pas, c'est que le président de la République continue dans une forme d'opportunisme écologique. Le sujet pour le président de la République, c'est pas d'enrayer la montée des écologistes. C'est d'enrayer la montée des températures, c'est d'enrayer la montée du niveau de la mer, c'est d'enrayer la montée des inégalités.
Il ne le fait pas.
C'est d'enrayer
il ne le
la
fait
défiance
pas par
dans
différentes
notre pays.
Initiatives, par la Convention citoyenne
pour
le climat.
C'est que les citoyens de cette Convention citoyenne se sont convertis à l'écologie en 9 mois. Sans que ce soit même à plein temps. Le président de la République est là depuis 3 ans. Il fait l'inverse de ce qu'il faudrait
mais
faire.
Mais Yannick Jadot,
ben
pourquoi vous ne croyez pas en sa fibre écologique ?
Parce
pourquoi
que ça fait 3 ans qu'il gouverne.
Et donc
parce que ça fait 3 ans qu'on augmente les pesticides. Parce que encore avant-hier, le président de la République et son gouvernement ont autorisé le piégeage des oiseaux à la chasse, la chasse à la glu, qui est l'une des pratiques les plus terribles pour les animaux. Parce que ce président de la République, il a, avec son gouvernement, baissé les investissements dans la rénovation thermique, alors que c'est un consensus chez les artisans, chez les entreprises, chez les familles, chez les consommateurs, et évidemment chez les écologistes. Donc, moi j'aimerais
mais dites-moi, avec
que
un tel
le président
tableau,
de la République tienne sa promesse une fois.
Avec un
qu'est-ce
tel
qu'il
tableau,
a dit le président de la République ? Il a dit, je reprendrai sans filtre, les propositions de la Convention citoyenne. Eh bien, moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, il le fasse, parce que l'urgence
toutes les
climatique,
propositions
l'urgence sociale...
Yannick Jadot,
l'urgence
toutes les propositions.
Mais il y a 149 propositions, il y en a qui sont affinées. Enfin, ce n'est pas 150 citoyens qui ont bossé, qui se sont investis dans cet extraordinaire exercice qui ont tout résolu et tout affiné avec des propositions précises. Mais il y a beaucoup de bon sens. Quand ces citoyens disent la rénovation thermique, Il faut que pour les populations les plus vulnérables, dans les quartiers populaires, les familles qui subissent la précarité énergétique n'aient pas un euro à mettre dans la précarité énergétique. Quand ils disent il faut un chèque
expliquez-nous
pour le bio.
On ne comprend pas Yannick Jadot. Le président de la République, il a quand même mis en place cette convention citoyenne pour le climat. C'est pas très bien. Dont
enfin,
acte. Depuis tout à l'heure, vous nous citez tout le verre à moitié vide. C'est un processus qu'il va acter.
Il faut être sérieux.
Je vous demande d'être sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas là une marque d'un engagement écologique ?
Non.
Non ?
Ce qui sera, le président de la République, après les Gilets jaunes, il a fait le grand débat. Vous savez où elles sont, les conclusions du grand débat ?
Dites-nous.
Elles ont disparu. Il a installé le Haut Conseil pour le climat. Très bien. Le Haut Conseil pour le climat ne cesse de dire le gouvernement, la France n'en fait pas assez. L'aide qu'on a en ce moment à l'économie n'est pas assez conditionné du point de vue de l'écologie. Et vous avez une convention citoyenne.
Mais vous n'êtes pas dans une logique de construction. Vous nous dites qu'il y a urgence sur le climat.
Je veux du concret.
Mais pourquoi est-ce que des écologistes ne rentreraient pas alors au gouvernement pour faire du concret ?
Nicolas Hulot a montré à quel point il avait été empêché d'agir. Il ne s'agit pas d'entrer dans un gouvernement pour que le président de la République, qui gouverne seul ce pays,
Vous n'attendez rien de ce remaniement.
Moi, ce que je veux, c'est que le président de la République enfin agisse pour les Françaises et les Français.
Mais dites-moi, Yannick Jadot, vous avez le monopole de l'écologie.
Mais aujourd'hui, nous incarnons.
Pourquoi le président ne pourrait pas faire de l'écologie sans les écologistes ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire ?
Mais c'est pas ce qu'il a fait depuis 3 ans. On peut prendre le bilan secteur par secteur. Il était dans le déni de l'écologie. Il a été le déni dans les forces vives de notre pays, sur les territoires. Il est dans le déni d'une démocratie qui fonctionne
Vous n'êtes pas dans le déni en ne voulant pas que des écologistes entrent au gouvernement alors qu'ils pourraient agir ?
Mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que ce gouvernement et ce président de la République agissent enfin. Ça n'est pas simplement agir en politique. On a dans certaines villes 70% d'abstention. Pourquoi on a 70% d'abstention ?
Mais la faute est partagée entre tous, je suppose.
Il va falloir que ces gouvernements sortent de l'inaction, sortent des non-choix, sortent de l'impuissance. On ne peut pas le matin...
Mais Yannick Jadot, expliquez-nous, expliquez aux auditeurs ce matin d'Europe 1 pourquoi vous ne pouvez pas faire de l'écologie
et ne pas agir.
Monsieur Jadot, expliquez ce matin aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi vous ne pouvez pas faire de l'écologie avec Emmanuel Macron alors que vous envisagez d'en faire avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui est allié dans certaines villes avec les écologistes.
Ces élections municipales, elles vont permettre, dans des villes importantes, dans des grandes villes comme Strasbourg, Lyon, je l'espère Marseille, Bordeaux et beaucoup d'autres villes, d'agir au concret pour les citoyens. J'étais hier soir à Colombes. Les quartiers populaires se sont mobilisés pour qu'il y ait la victoire d'un écologiste. Mon seul sujet, c'est que les élus agissent. Mon seul sujet, c'est que les élus tiennent leurs engagements sur la transition énergétique. C'est le seul sujet. S'il y a de la défiance...
Il y a un sujet, mais il y a plusieurs questions, permettez-moi. C'est important. Je voudrais comprendre encore une fois, vous la répétez sous différentes formes. Pourquoi un écologiste comme Pascal Canfin, je suppose que vous lui faites confiance, pourquoi une femme engagée comme Laurence Tubiana ne rentrerait pas au gouvernement pour, entre guillemets, si je suis votre logique, mettre sur le droit chemin Emmanuel Macron, sur le chemin de l'écologie ?
Parce que vous pensez que depuis 3 ans, ce sont les ministres qui décident de ce qui se passe dans ce pays ? Il vous a échappé que c'est Emmanuel Macron
qui
avec
décide,
son directeur
c'est l'opposition,
de cabinet,
c'est vous ?
C'est Édouard Philippe avec son directeur de cabinet qui dirige ce pays.
Donc vous laissez 2 ans filer sans rien faire alors qu'il y a urgence ?
On est en train de gagner des villes, on va agir pour les Françaises et les Français. Au Parlement européen, je me bats pour changer l'agriculture, je me bats pour que les marchés publics favorisent nos PME locales et j'aimerais que le gouvernement nous me soutienne. J'ai la responsabilité de la taxe carbone aux frontières. J'espère que le gouvernement va me soutenir. Mais souvenons-nous que Nicolas Hulot a démissionné parce que le président de la République ne voulait
choix.
Pas passer
il a démissionné.
Des paroles aux actes. Non, parce qu'il a une cohérence. Parce que les écologistes, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des promesses,
Yannick Jadot,
ce sont des
actes. Si j'ai bien compris, il faut un président vert pour vous. C'est la seule solution.
Il faudra un président
et
écologiste.
Et si je compte combien de fois vous avez dit « je » pendant cette interview, ça ne peut être que vous, le candidat naturel des Verts.
Mais ce n'est pas le sujet.
Vraiment ? Alors il faut une primaire peut-être ?
Non, on est le lendemain des élections municipales. Moi, ce matin, je veux dire toute ma fierté de ces maires qui ont conquis des villes difficiles, qui veulent agir au quotidien dans la vie locale pour nos concitoyens. On a gagné la crédibilité, il nous faut maintenant faire la preuve que à l'exercice du pouvoir, nous sommes actifs.
Yannick
Jadot. J'ai dit non, je veux faire la preuve qu'à l'exercice du pouvoir,
ensemble,
et ben les maires réussissent et réussissent à réconcilier les Français avec la politique.
Vous restez avec nous, Yannick Jadot, et avec Mathieu Belliard et les auditeurs sur Europe 1.
Beaucoup de questions ce matin sur le hashtag Europe 1 pour Yannick Jadot, l'eurodéputé vert Yannick Jadot, 8h28. On revient dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, il est 8h31. Yannick Jadot, le député européen Europe Écologie Les Verts, est l'invité de la matinale. Vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Beaucoup de questions ce matin, Yannick Jadot, sur le hashtag Europe 1 au lendemain de ce second tour des municipales. Alors, je vais commencer par vous demander d'arbitrer un débat. J'ai Rock qui nous dit il est grand temps d'arrêter avec cet échec et la catastrophe que sont le nucléaire. L'EPR ne marchera pas, bourré de malfaçons. Oh, Rock fait évidemment référence à la fermeture de Fessenheim ce soir, à minuit, la plus vieille centrale nucléaire française. Ce à quoi Sylvie répond, la fermeture de Fessenheim, pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'on relance les gaz à effet de serre ce soir, l'urgence est le climat et une partie de la solution se trouve dans l'atome, Yannick Jadot, vous dit Sylvie.
Eh bien, je suis plutôt sur la position de Rock. Bien sûr que la priorité, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, mais l'action pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique, y compris du point de vue économique, du point de vue social, c'est un, d'investir sur les économies d'énergie. On l'a dit, moi, tous les artisans, la Confédération des PME, la Fédération française du bâtiment, ils me disent tous, nous voulons enfin, maintenant, le plan de relance sur la rénovation thermique. Je l'ai dit, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est l'économie pour le pouvoir d'achat des Français, c'est des degrés en moins quand il fait très chaud. Et puis, c'est le développement des énergies renouvelables.
En attendant le développement, on a du nucléaire et des pics d'électricité en hiver.
Si vous voulez, Fessenheim est une centrale dangereuse, historiquement dangereuse, sur une zone sismique, en dessous le canal, qui est vieille et qui connaît beaucoup de problèmes. Donc on ne va pas prendre le risque d'avoir une centrale nucléaire qui pète quand aujourd'hui, quand vous construisez un parc éolien au large de nos côtes, et nous sommes très en retard, ça nous coûte deux fois moins cher pour le consommateur que construire un EPR, par exemple en Grande-Bretagne. Donc la survie d'EDF, la survie, un système électrique fort, un système électrique propre, eh ben, ce sont les énergies renouvelables et pas le nucléaire.
Grand chelem pour Europe Écologie Les Verts du côté de Lyon, la ville et la métropole.
Ouais.
David Doucet, le nouveau maire de Lyon, écoutez ce qu'en disait Gérard Collomb, amer, hier soir.
Je crois qu'il va prendre contact avec la réalité. Le discours vert où on mettait des arbres partout vont être confrontés à la crise économique qui va y avoir à partir de octobre-novembre, sauver de la faillite des entreprises, essayer de faire en sorte que le chômage n'explose pas dans cette agglomération. C'est moins sympathique que de parler de la nécessité de promouvoir l'écologie.
David Doucet, pour caricaturer, puisque ça l'a été fait, Monsieur Doucet, et ses pistes cyclables vont se heurter la réalité économique.
Écoutez, Gérard Collomb, qui a participé, y compris au gouvernement, qui fait de la politique depuis très très longtemps, je pense, de fait, est co-responsable de la crise démocratique, de la crise sociale, de la crise économique que nous connaissons dans ce pays, de ne pas avoir pris le virage. Vous savez, à Lyon, les entreprises ont compris que la transition écologique était une formidable opportunité de développement, de création d'emplois. Donc voilà, après, je pourrais presque citer Johnny Hallyday. Vous savez, Johnny Hallyday, il disait dans un concert, il faut réussir son entrée, il faut réussir sa sortie et entre les deux, on fait ce qu'on sait faire. Eh bien, Gérard Collomb a raté sa sortie.
Alors, beaucoup de messages au sujet de l'abstention, Yannick Jadot, ce matin. Philippe nous demande, est-ce qu'on peut parler de vagues vertes avec un tel taux d'abstention? Y a-t-il des vagues sur une mer d'huile? Thomas nous écrit, au soir du premier tour, vous aviez l'honnêteté de reconnaître que ce premier tour, le 15 mars, en plein démarrage de l'épidémie, manquait de sens. Est-ce que les Français étaient prêts, mobilisés pour ce scrutin le week-end dernier? Jean-Marc Janaillac, l'ancien patron d'Air France, qui écrit sur le hashtag Europe 1, lorsqu'on gagne, on se félicite de la démocratie représentative, alors qu'on l'a fustige quand on est minoritaire. Ce n'est pas plutôt un problème de démocratie tout court ?
Bien sûr. Bien sûr, il y a une défiance très forte des Françaises et des Français vis-à-vis de la politique. Et c'est particulièrement dramatique quand les maires sont les élus préférés des Français. Et donc, il va falloir renouer le contact, renouer le fil démocratique avec les citoyens. Et bien, c'est justement en ayant des élus qui vont tenir leurs engagements, qui vont tenir leurs promesses, qui vont agir dans la vie quotidienne, concrètement, pour améliorer le logement, le déplacement, l'alimentation, l'accès à des services publics de qualité, l'emploi dans des entreprises qui ont du sens, qu'on montrera que les politiques publiques, c'est utile, que la démocratie, elle est utile. C'est un chemin. Et bien nous, nous sommes des acteurs pour reconstruire ce lien démocratique.
Il est 8h36. Europe 1. Vous restez sur Europe 1. Yannick Jadot répond à vos questions sur le hashtag Europe 1. Il y a encore beaucoup de questions. On revient dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h37, vous êtes avec Mathieu Béliard et vous posez vos questions au député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, sur Twitter, hashtag Europe 1.
Yannick Jadot, j'ai cette question de Paul. Considérez-vous la victoire d'Anne Hidalgo à Paris comme une victoire de votre camp, son programme étant avant tout basé sur des mesures écolo, environnementales, etc.
C'est le camp de l'écologie, de la solidarité, de la démocratie. Quand on regarde toutes les villes en France qui ont été gagnées sur ce projet-là, que ce soit par des écologistes ou par des candidates et des candidats qui rejoignent ce projet-là, c'est énorme, et c'est une bonne nouvelle pour notre pays, parce que ça veut dire qu'il y a une aspiration, y compris nationale, à l'action, à une écologie engagée de manière extrêmement concrète, extrêmement pragmatique, au service des Françaises et des Français. Alors oui, tout ça forme les forces du renouveau, et il va falloir que ces forces du renouveau continuent à travailler ensemble pour notre pays.
Et pour les échéances à venir, ça veut dire, pardonnez-moi Yannick Jadot pour traduire, qu'il va falloir aussi que le Parti Socialiste sache se ranger derrière vous quand il le faut ?
Je ne pose pas les termes de cette manière. Je pense que l'écologie est en train de recomposer le paysage politique. Il y a 3 ans, c'était Emmanuel Macron qui recomposait le paysage politique autour de sa personne, de sa promesse. Aujourd'hui, ce paysage, il se recompose autour d'un projet, d'une espérance, de solutions très concrètes et à la fois qui projettent nos enfants dans un avenir serein. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle démocratique. Donc Jérôme, il va falloir, c'est autour de ce projet que ça doit se reconstruire.
Alors Jérôme a une question extrêmement simple. La réponse, c'est peut-être plus compliqué. Êtes-vous de gauche ?
Moi, mon histoire, elle est de gauche. Mais aujourd'hui, je suis écologiste. Moi, mes valeurs, c'est la solidarité, c'est le féminisme, c'est la démocratie. Mais quand je regarde les victoires qu'il y a eu hier soir, c'est pas simplement le camp de la gauche qui a gagné. C'est une espérance sur la société.
Ceux qui parlent de gauche plurielle se trompent d'analyse ?
Oui, parce que là, y compris la gauche plurielle, c'était chacun son business. Les socialistes, dans leur capacité à gouverner, les communistes au transport, les écolos à l'environnement. Aujourd'hui, on voit bien que tout ça est absolument transversal, qu'on ne peut pas penser les transports sans l'écologie, qu'on ne peut pas penser l'écologie sans le social, l'écologie est même la matrice qui permet de redynamiser l'économie en la sortant du carbone, en investissant, en innovant. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'écologie est la matrice. Le seul projet, à mon avis, qui nous réconcilie entre nous, qui apaise les tensions, qui crée de l'emploi et qui nous réconcilie avec notre avenir.
Ahmed, d'une certaine manière, complète ce que vous disiez. À vous entendre, il ne faudrait pas se froisser avec ceux qui portent un projet proche du vôtre, peut-être en préparant des coalitions pour 2022 ?
Un rassemblement.
Rassemblement plus que coalition.
On ne va pas faire des accords d'appareil. Vous voyez bien que la dynamique hier soir, elle est très large, elle est très populaire. Et donc, on ne va pas refaire des accords d'appareil quand il faut créer un rassemblement qui dépasse ces appareils politiques, qui les déborde avec des valeurs extrêmement fortes, je l'ai dit.
Alors j'ai cette question complémentaire. Sylvie nous écrit à chaque scrutin intermédiaire, les gagnants nous disent qu'ils sont devenus le premier parti ou au moins les premiers opposants du pays. Est-ce que ce matin, vous dites que vous êtes le premier opposant Emmanuel Macron ?
Je m'oppose au déni démocratique d'Emmanuel Macron. Je m'oppose à sa façon de mépriser ou d'ignorer une bonne partie des forces vives de ce pays qui sont sur les territoires. Je m'oppose à ce déni de l'écologie. Mais moi, mon sujet, c'est de construire. Les écologistes, s'ils se sont emparés, s'ils ont conquis des villes, c'est pas pour occuper le pouvoir. c'est pour agir au quotidien au service des Françaises et des Français.
Et dans les deux ans qui viennent, vous pourriez construire avec Emmanuel Macron, justement ? Ou c'est fini, c'est incompatible ? Regardez trois ans et
regardez
de la campagne.
Regardez ce qu'ils ont fait pendant les municipales.
Donc c'est
La République En Marche est alliée avec les Républicains. Il y a le Front Républicain contre le Front National ou le Rassemblement National, et vous avez eu le Front du recul, le Front du déclin, contre les écologistes, contre celles et ceux qui portent des villes respirables, des villes où nos enfants peuvent jouer dans des cours de récréation sans tousser. Je constate que La République En Marche a pris le chemin d'un rassemblement avec les Républicains et que...
Donc les chemins se séparent, c'était le sens de la question.
Ces forces politiques aujourd'hui, plutôt que d'intégrer la contrainte climatique, plutôt que de voir son potentiel en matière de création d'emplois et de lutte contre les inégalités, contestent l'écologie parce que finalement, on vient les bousculer sur leur statu quo, leur repli.
André nous écrit, et c'est du concret, alors que les citoyens de la Convention ont botté en touche, aurez-vous le courage chez les Verts de remettre la taxe carbone sur la table ?
Nous avons toujours défendu l'idée que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il fallait donner un prix au carbone. On ne peut pas sortir du carbone si le carbone n'a pas de prix. Mais nous avons toujours dit que, depuis 10 ans, que pour, notamment pour les ménages, les familles les plus en difficulté, chaque euro de fiscalité carbone devait être compensé à l'euro près. Chaque euro de fiscalité carbone devait être investi dans les transports collectifs, devait être investi dans la rénovation des logements pour que ce soit un bénéfice pour les familles et non pas une taxe en plus.
Jean-Paul, et j'en terminerai avec Jean-Paul, vos lieutenants sur les plateaux télé hier disaient que les Verts ont gagné parce que la problématique écologique se prête bien aux enjeux locaux de ces municipales. Mais en réalité, c'est sur la fiscalité, sur des enjeux industriels, de mondialisation. C'est au niveau national, écrit Jean-Paul, que ça peut vraiment être utile, les écologistes, pas sur les pistes cyclables ou le bio à la cantine seulement. Que lui répondez-vous ?
Il faut lire les programmes des écologistes. Il faut regarder le travail que nous faisons au Parlement européen. Nous travaillons depuis le début de la fondation de l'écologie politique sur la mondialisation. Aujourd'hui, on a une mondialisation libérale qui crée la guerre de tous contre tous, qui organise la délocalisation d'une partie de nos industries, qui participe du dérèglement climatique et de l'anéantissement du vivant. Et ben, quand on se bat contre les accords de libre-échange, que ce soit avec le Vietnam, avec le Mexique et avec le Mercosur, on défend nos paysans, on défend nos industries, on défend nos PME, on défend notre souveraineté industrielle. Moi, au Parlement européen, je me bats aujourd'hui pour qu'on ait enfin une politique industrielle commune sur le numérique, sur les énergies renouvelables, sur, sur la sidérurgie. Je me bats pour que, je l'ai dit tout à l'heure, nos marchés publics favorisent nos PME. Je me bats pour qu'il y ait une taxe carbone aux frontières. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et souvent beaucoup plus que les autres.
En tout cas, des enjeux locaux, nationaux et internationaux même, on l'a entendu à la fin. Yannick Jadot, merci beaucoup.
Merci.
Député Europe Écologie Les Verts, merci d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs ce matin. Merci à eux de les avoir posées d'ailleurs sur le hashtag Europe 1. Il est 8h44.
Europe 1. Dans un instant, la revue de presse avec Nicolas Cantelou et Julie sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1, 8h46.
Et on retrouve Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque du direct, Mathieu. C'est la revue de presse de Nicolas Cantelou en best-of. Allez, on va parler de Carlos Ghosn, qui s'est donc enfui du Japon et qui est désormais au Liban. Il a déclaré « Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice ». On est en ligne avec lui. Bonjour Carlos Ghosn.
Oui, salam alaikum, Mme Julie. Bonjour les autres. Bonjour à tout votre studio.
Bien la voix. Alors Carlos Ghosn.
Oui, j'aime quand vous mettez une note sur mes voix alors que je suis imitateur professionnel.
Carlos Ghosn, vous vous êtes donc enfui en avion, hein, on a vu ça.
Oui, effectivement, j'aurais pu fuir en Dacia Sandero, vous l'aurez noté, ou en Twingo.
Bien la vanne.
Mais je suis bien placé, Madame Leclerc, pour savoir que les Dacia et Twingo, c'est de la merde, vu que c'est moi qui les fabrique.
Alors, il paraît que vous étiez caché dans une malle d'instruments de musique. Ça, c'est incroyable.
Voilà, une malle d'instruments de musique. Voilà ce à quoi je suis rendu. J'ai dû me déguiser en violoncelle et me cacher dans un étui. Mais bon, de toute façon, j'avais tout prévu. J'avais un faux passeport au nom de Guy Joao. D'accord. Oui, vous avez fait le lien. Je vois que vous êtes férus d'actualité. Si on m'avait arrêté, j'aurais dit, ah non, déjà que vous m'avez pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, vous n'allez pas en plus me prendre pour Carlos Ghosn.
Bien joué, hein, monsieur Ghosn. En
je
tout cas,
remercie.
Ça y est, vous êtes au Liban, mais on reste en contact avec vous. Allez, nous en parlions ce matin. Donald Trump continue ses provocations envers l'Iran. Bonjour, Danny Cohn-Bendit.
Oui, bonjour, Thomas. C'est génial.
Quoi ?
Génial,
quoi ?
Les États-Unis. Ah. Dès alors... qu'un président est dans la merde, excuse-moi d'être trivial, avant une élection, il a le droit de tirer une carte chance. Bon, là-bas, ça s'appelle pas carte chance, ça s'appelle guerre en Irak. Voilà. Mais c'est la même chose. Hein. Et même quand ils sont en Irak, ben, ils bombardent quand même l'Irak. Mais là, c'est les Iraniens qui vont prendre dans la gueule.
Ouais, alors, on dit que Donald Trump a besoin d'une guerre pour se poser en président avant l'élection de novembre.
Mais ouais, mais ça va marcher. Ça marche à tous les coups. C'est là qu'on voit qu'on est nul en France. Macron, il n'a pas encore trouvé son endroit qu'il pourrait bombarder avant 2020.
Oh, mais ça pourrait être où cet endroit ?
Bon ben, ça pourrait être où nous ? L'armée française est pas, tu vois, on n'est pas les États-Unis, donc faut s'attaquer à un truc pas trop gros, tu vois. Faudrait, je sais pas, moi, bombarder l'Andorre ou Liechtenstein, le Luxembourg. Non, sinon plus gros, ils vont nous battre.
Bon ben, merci, Danny.
Ben de rien, Thomas.
Carlos Ghosn donnait une conférence de presse très attendue. BFM TV a diffusé cette conférence en intégralité avec de nombreux experts en plateau. On les a trouvés un petit peu complaisants avec le fugitif Carlos Ghosn. On va voir l'ambiance de la matinale de Christophe Delevingne.
Bonjour, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Nous allons bien sûr revenir sur la très belle prestation, il faut le dire, de Carlos Ghosn. Hier, Carlos Ghosn, ce grand patron français, immense patron français, créateur d'emplois, accusé très injustement par le Japon d'avoir détourné de l'argent. On va en parler tout de suite dans notre édition, après notre jingle affaire judiciaire qui fait peur. Voilà, tout en sobriété sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Patrick Sauce. Patrick Sauce et son binôme à la caméra, Michel Béarnaise. Alors,
vous
Patrick,
l'avez, Mathieu, Sauce Béarnaise.
Oui, ça, Mathieu,
bon,
là, forcément, c'est de la bouffe. Alors, Patrick, vous avez assisté au concert de... Pardon, à la conférence de Carlos Ghosn hier. Racontez-nous.
Oui, Christophe, effectivement, j'ai eu la chance donc ici d'assister à cette prestation hors du commun, disons-le. Ouais. Carlos Ghosn a été excellent. Il a été pugnace, il a répondu, vous l'avez entendu, en français, en anglais, en arabe. J'en ai parlé à son avocat, à son meilleur ami, à sa femme, également à son chien. Et tout le monde est unanime, tout le monde l'a trouvé formidable.
Oui, tout à fait. Nous avons vu d'ailleurs sur les images de BFM le chien. De M. Ghosn remuer la queue. On a compris qu'il était apparemment joyeux.
Oui, bon.
Patrick, on imagine que du côté du Japon, on est moins enthousiaste.
Écoutez, effectivement, je suis à côté d'un officiel du ministère de la Justice japonais, M. Takechi Pikachu. Alors, M. Pikachu, Carlos Ghosn a été, nous le disions à l'instant, éblouissant. Il a bien répondu au système juridique de votre dictature. Pensez-vous qu'il vous pardonnera ? Pensez-vous qu'il pourra passer outre ? Quelles excuses aimeriez-vous lui formuler ?
D'un côté, je crois que dans ce dossier...
Priorité au direct, désolé Monsieur Pikachu, on vient de recevoir, et c'est une exclusivité, BFM Télé, des images très poignantes, des images de Carlos Ghosn qui se promène sur une plage du Liban, apparemment soulagé et libre en tout cas, on peut... Regardez sur ces images, on peut admirer les gouttes d'eau de mer qui perlent sur son torse musclé. C'est, ma foi, beau, un patron libre, un patron tout court. À vous, Paris.
Merci, Christophe Delevingne. Pendant les grèves, les Parisiens ont beaucoup utilisé le vélo. Et conséquence étonnante, l'électorat de droite pense qu'Anne Hidalgo a fait du bon travail avec ses pistes cyclables. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour aux pompes funèbres, Monsieur Alexandre. Et bonjour aux Parisiens et aux Parisiennes. Mm-hmm. Oui, la droite, vous l'avez dit, c'est un constat pour lequel je me réjouis, aime mon travail. Vous voyez qu'il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Dieu sait qu'à mes yeux, les gens de droite sont très, 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 très imbéciles.
Oui, bon, ben, ça va aller. Et finalement, il suffit que les gens de droite se mettent au vélo dans Paris pour qu'ils comprennent que c'est pas si mal que ça.
Hein, voilà, voilà. Écoutez, si seulement les gens de droite étaient jeunes, ils pourraient aussi se mettre à la trottinette et se rendre compte que c'est encore mieux que le vélo, je vous le dis, gens de droite. Mais bon, malheureusement, le dernier jeune de droite, c'est Monsieur Darmanin. Et en plus, il a un chauffeur.
Ah bah oui, ça marche pas. Alors. En tout cas, ces grèves des transports auront eu un effet bénéfique, selon vous, hein ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas... J'ai du mal sur les faits. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faudrait qu'il y ait une grève des cliniques privées. Je le crois, pour qu'ils comprennent, les gens de droite, à quoi sert l'hôpital public.
Ah,
ou qu'il y ait... par exemple, une grève des restaurants et des supermarchés Fauchon pour qu'ils comprennent à quoi servent les restos du cœur.
Oui, on a compris. Là,
vous voyez que c'est bien, les gens de droite, vous progressez. Hein, lentement, pas à pas, mais vous progressez.
Merci Anne Hidalgo. Toujours sur cette évasion de Carlos Ghosn au Liban, l'avis de Nicolas Sarkozy. Bonjour.
Allez, allez. Franchement, quelle indignité, madame Élise Lucette. Associer mon nom à celui d'un fugitif.
Oh bah, attendez.
Si, si, qui a fugitivé de sa prison, tout le monde le sait. Mais franchement, mais qu'on arrête de vouloir me salisser en permanence. Je ne connais pas, une fois pour toutes, M. Béliard doit dans les yeux, M. Montané, M. Cabrol, tiens, vous êtes là, je ne l'ai pas vu.
Non, on voit que lui, arrêtez.
Mais, on peut écouter avec ce chapeau conique et sous la table, c'est peut-être pas évident de le voir. Je le répète, voilà. Je ne connais pas ce monsieur, pas M. Cabrol, M. Ghosn.
Mais attendez, mais c'est votre ami Carlos Ghosn, vous lui avez rendu visite au Japon récemment.
Au Japon. Bon, il faudrait savoir, il est au Japon ou il est au Liban?
Bah, il était au Japon. Là.
Oui, mais soyez précis, parce que Mme Julie, le métier de journaliste, c'est avant tout la précisité. Bon, bref, je ne connais pas de Carlos, donc merci, au revoir, vous êtes gentil avec moi.
Mais voilà. Arrêtez, tout le monde...
m'écouter.
Mais non, tout le monde sait que vous le connaissez, enfin.
Mais je ne connais pas Carlos. Moi, je connais Carlos, je ne connais pas Carlos. Alors, je l'ai... Bon. Écoutez, je l'ai peut-être croisé une fois au mariage de Johnny avec Stéphane Collaro.
Ah, Carlos.
Mais maintenant, je m'en rappelle. Oui, si, parce que alors voilà. Parce que maintenant, je me suis dit, c'était le gros, c'est ça, oui, c'était le gros qui chantait Papayou Lélé avec des chemises moches. Et j'ai... dites donc, moi j'ai connu la régie d'Europe 1, la technique était moins réactive que ça, mais... Ils mettent des langues de belle-mère, ils mettent Carlos, alors que c'était
c'est
pas
bien,
prévu.
Hein, ouais. Oh, non, c'est bien. Formidable réactif.
Quelle réactivitude qu'ils ont maintenant. Vous avez changé les équipes ou quoi?
Non, les mêmes, mais ils sont reposés là.
Ils sont Guranja ou Red Bull? Oh là là, oui. Ils vont mettre un bruit de chèvre aussi. Parce qu'ils l'ont en stock, vous savez, il y a deux ans, ils avaient un bruit de chèvre. Mais... C'est un chameau, ils avaient des chèvres. Bon, bref.
Bon, alors,
si, parce que je connais ce monsieur Carlos qui chante Papayou, ouais. Je mérite la prison pour ça. Mais quelle indignité. Franchement.
Quoi?
J'ai été bonne. Hein.
8h56, merci Nicolas Canteloup. À retrouver la revue de presse, évidemment, Nicolas, Julie, sur europe1.fr, y compris en best-of, bien sûr. J'allais dire Omblin, on revient demain. Non, d'abord, Philippe Vandel qui est là, parce que de 9h à 11h, c'est la matinée qui continue, ça s'appelle Culture Média.
Oui,
bonjour Philippe.
Bonjour à tous et toutes. On va parler, je dis et tout exprès, on va parler de la place des femmes dans les médias pendant la crise du coronavirus. Elles étaient en première ligne, et pourtant, dans les médias radio, télé, presse, elles étaient aussi peu représentées que d'habitude. Il y a une députée qui a écrit un rapport qu'elle a remis au ministre, elle s'appelle Céline Calvez, elle sera avec nous. Ensuite, le reporter Hugo Clément pour un nouveau numéro de sa grande soirée environnement, ça s'appelle Sur le front, et là c'est sur le front des animaux menacés. Et puis l'indescriptible Franz-Olivier Gisbert pour son nouveau roman, ça s'appelle Dernier été, là aussi c'est indescriptible, il désingue deux, trois collègues à lui. Je peux te dire, il y a du monde qui va l'attendre à la sortie du studio. On est ensemble. Non, on n'est pas ensemble jusqu'à 2h. Nous, on sera ensemble jusqu'à 11h.
Jusqu'à 11h.
Ouais,
c'est déjà pas mal
texte,
pendant 2 heures de Culture Média.
Je suis parti en ligne droite sur mon texte.
Vous restez sur Europe 1, bien sûr, avec Philippe Vandel et son équipe. Omblin, nous, on revient demain matin.
Oui, avec Julien Pierce.
Julien à 5h.
À 5h, oui. Oui.
Je serai à 6h. D'ici 5h, là,
exactement.
On est des machines. Hein. Si vous me changez un petit truc, c'est perdu.
Vous.
Je reviens demain, 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
Mathieu Béliard était sur Europe 1.
Europe 1.